Cham philo.
Parce qu'au lycée, la philosophie ne se trouve pas seulement dans les manuels.
Cham philo.
Elle résonne dans chaque question, dans chaque débat de la vie quotidienne.
Bonjour à tous. Nous nous retrouvons sur Radio Cham pour une nouvelle émission. Quelle est notre responsabilité éthique envers l'environnement et comment devrions-nous traiter la nature ?
Nous allons donc traiter ici effectivement notre rapport à la nature et pour ça nous allons utiliser trois grandes positions philosophiques, l'anthropocentrisme, le biocentrisme et l'écocentrisme. On va voir ça ensemble.
Vous êtes Jake Sully. On vous propose de repartir à zéro dans un nouveau monde. Vous aurez un rôle décisif.
Je m'étais engagé dans les marines pour en baver. Je me disais que je pouvais affronter n'importe quelle épreuve. Tout ce que je cherchais depuis toujours, c'était une bonne raison de me battre.
Mesdames et messieurs, vous n'êtes plus dans le Kansas. Vous êtes sur Pandora.
Ces têtes que vous faites.
Nous avons une population d'indigènes qu'on appelle les Na'vi. Ils sont très difficiles à tuer.
C'est pour ça qu'on est là. Ce petit caillou gris vaut 20 millions de kilos. Il se trouve que leur village est planté sur le plus gros gisement et il faut qu'on les déplace. Ces sauvages menacent toute notre opération. On est au bord de la guerre et vous êtes censés trouver une solution diplomatique.
Dans le film de science-fiction Avatar de James Cameron, une société d'extraterrestres vit en osmose avec la nature. Les Na'vi forment en effet une communauté vivant autour d'un arbre des âmes, leur permettant de se connecter à une sorte de super-organisme qu'ils prennent pour une déesse mère, la déesse Eiwa. Toute la faune et la flore de Pandora sont ainsi interconnectées et reliées, comme le seraient des synapses du cerveau, de sorte que la planète entière serait parcourue par un réseau complexe d'interactions. Cet univers fantastique a pourtant une signification, nous mettre face à notre responsabilité par rapport à notre environnement. En cette période où les hommes prennent conscience des conséquences de leurs actions sur le climat, comment Avatar peut-il nous permettre de réfléchir sur notre rapport à la nature ? Finalement, quelle est notre responsabilité éthique envers l'environnement et comment devrions-nous traiter la nature ?
Alors en effet, notre époque elle est marquée par le changement climatique, la prise de conscience de la perte de biodiversité dans différentes parties de la planète, les impacts de la pollution, mais également aussi les conséquences qui sont parfois un petit peu anxiogènes vis-à-vis donc de notre avenir et des générations futures. Et le film d'Avatar de James Cameron finalement propose ici une image qui est donc certes se passe dans l'espace, dans un avenir avec des vaisseaux spatiaux, etc. Mais cela montre aussi, si on l'analyse un peu philosophiquement, une manière que nous avons en tant qu'être humain de traiter la nature et donc par cette mise en scène on a un reflet de nos valeurs et de notre conception de la justice. Donc en philosophie déjà, comment est-ce qu'on pourrait analyser ce premier terme de responsabilité éthique envers l'environnement ? Alors quand on parle de responsabilité éthique, déjà on a un premier mot qui est ici la responsabilité. C'est le fait, donc, en latin, respondeo, c'est répondre de. La responsabilité, c'est le fait de répondre de nos actes, d'agir selon donc des devoirs moraux. Ici, c'est orienté vers un objet, la nature, et la nature, ça désigne notamment les autres êtres vivants, l'environnement dans lequel ils vivent. On appelle ça l'éthique environnementale. C'est une branche de l'éthique en philosophie qui traite particulièrement des problèmes en lien avec l'environnement et les autres êtres vivants qui nous entourent. L'éthique environnementale, c'est donc... C'est composé ici du terme éthique, qui vient du grec ethos, qui désigne nos habitudes, les mœurs, notre caractère. Ici, si on veut considérer l'impact de nos actions sur l'environnement et prendre en compte ici les autres êtres qui habitent la Terre, donc ici on va voir donc les animaux, les lieux dans lesquels ils vivent, on va devoir prendre en compte leurs besoins et peut-être même établir des droits pour ces animaux-là. C'est en tout cas les questions qui sont posées par l'éthique environnementale, qui s'adressent d'une part aux êtres qui sont donc dits non humains, l'environnement qui nous entoure, qui n'a pas été encore altéré par l'être humain, et d'autre part aussi, cela traite de notre rapport avec les générations humaines futures. L'éthique environnementale, en fait, elle nous invite à réfléchir sur la manière dont nous pouvons protéger la nature et ainsi pouvoir engager donc des actions et des activités qui sont plus durables et plus respectueuses de l'environnement. Alors, on emploie ici le terme d'environnement, il faut aussi le distinguer du terme nature. La nature, c'est un terme qui est un petit peu vague, et l'environnement, il va désigner plus précisément l'ensemble de l'univers non humain qui nous entoure. On remarque ici que l'être humain s'est tellement implanté sur la planète que c'est un peu compliqué d'imaginer une nature vierge comme cela pouvait être pensé avant. Donc on parle maintenant davantage de l'environnement qui est en fait cet espace qui est en interaction avec l'être humain, de sorte que les écosystèmes, en fait, ce sont certes des processus naturels qui n'ont pas besoin de l'être humain pour pouvoir exister, mais qui sont en fait en relation avec nous, puisque nous altérons un petit peu notre environnement et donc nous altérons la nature, ce qui fait qu'on parle plus vraiment de nature quand on est face à des plantes, face à des animaux, on parle davantage d'environnement et d'écosystème.
Et quels sont les principaux courants de pensée dans la philosophie environnementale ?
Alors, si on devait les définir effectivement assez simplement, on a tout d'abord l'anthropocentrisme qui va considérer que la nature a une valeur instrumentale, c'est-à-dire qu'elle est précieuse dans le sens où elle sert les intérêts humains. Dans les grandes traditions philosophiques, en effet, la nature s'était vue comme un stock de ressources, un ensemble donc d'êtres et d'éléments qui sont à disposition pour les êtres humains. Et ce stock nécessitait une sorte de conscience dans son utilisation, ce qui fait qu'il y avait un premier rapport éthique qui était anthropocentré. Deuxième grand mouvement, c'est le biocentrisme. Le biocentrisme, c'est l'idée que on doit davantage faire attention aux processus vivants, aux organismes plutôt que des processus d'ailleurs, faire attention aux organismes vivants, tout ce qui a un lien avec le végétal et l'animal. L'écocentrisme va étendre cette valeur finalement des êtres vivants, des êtres naturels, à leur environnement et à tous les écosystèmes complexes qui mettent en lien des éléments vivants et des éléments inorganiques.
Explorons d'abord la position de l'anthropocentrisme. En quoi consiste cette perspective et quelles sont ses limites ?
En Occident, classiquement, la morale est dite anthropocentrée, c'est-à-dire qu'en fait, elle s'intéresse uniquement aux activités de l'être humain et à ses besoins personnels. Donc, les premières définitions de la morale, en fait, n'incluent pas du tout de rapport avec les animaux particuliers, n'incluent pas non plus de considération pour l'environnement ou la nature qui nous entoure. La nature, c'est vu en fait comme la nature est vue comme étant un environnement qui n'a pas de lien avec des considérations éthiques. Le premier penseur qu'on peut citer ici, c'est Kant, qui va affirmer ici que la moralité dépend intégralement de la dignité humaine, c'est-à-dire que nos rapports moraux sont conditionnés par le fait qu'on a besoin de considérer notre rapport interindividuel, notre rapport entre les différentes personnes. Et la moralité, en fait, la façon dont a été la formule de façon la plus claire, c'est avec Kant. La seule façon dont Kant met en place une réflexion autour des animaux et des rapports avec les êtres humains, c'est le fait que, bien que les animaux ne sont pas raisonnables, ne sont pas doués d'une raison, ce qui leur confie pas une certaine dignité pour Kant, en même temps, on ne doit pas leur faire de mal, puisque faire du mal à des animaux pour Kant, c'est atteindre tout de même quelque chose qui est de l'ordre de la dignité humaine. C'est pas forcément humain de faire du mal à un être vivant. C'est quelque chose qui n'est pas à valoriser, c'est même plutôt quelque chose qui nous abaisse. Donc, bien qu'on peut frapper son chien ou son chat, en fait, pour Kant, bien que ça n'ait pas de grandes implications morales, en réalité, cela quand même atteint une forme d'humanité qui est présente en l'homme. Mais donc, la nature, au sens large, ne fait pas l'objet d'un souci particulier. Avant le XXe siècle, en fait, la nature, c'était... Avant le XXe siècle, la nature ne fait vraiment pas l'objet de considérations particulières. On parle même souvent d'une phrase qui est dite par Descartes dans le discours de la méthode, c'est qu'avec notre technique, avec nos sciences, nous sommes capables de nous rendre comme maître et possesseur de la nature. Donc il y a quand même une ambivalence, puisque si nous possédons la nature, si la nature est mise à disposition des besoins de l'être humain, en même temps il en est son maître, c'est-à-dire qu'il a la nécessité de devoir la protéger, devoir la préserver. En effet, c'est de cette nature que l'être humain peut survivre, c'est bien depuis la nature que nous avons des ressources qui assurent notre alimentation, notre vie en général. Les forêts nous permettent donc de purifier l'air, nous avons besoin du climat et des ressources qui nous entourent pour pouvoir survivre. Donc en quelque sorte, il y a tout de même une relation ici de responsabilité vis-à-vis de l'équilibre dans l'environnement. Mais cette préoccupation est uniquement centrée autour des besoins de l'être humain. Cette perspective a donc forcément des limites, puisque quand on se concentre uniquement sur les intérêts humains, en fait on peut justifier absolument l'exploitation excessive des ressources naturelles, négliger surtout les besoins des autres espèces et des autres êtres vivants qui nous entourent, et donc finalement justifier le fait que l'on puisse altérer des écosystèmes. Ça peut nous mener effectivement à des décisions qui, à long terme, peuvent compromettre la durabilité de notre existence. Et dans le film Avatar, on voit tout à fait ça. Dans le film Avatar, l'enjeu, c'est l'arbre maison, qui est donc l'arbre dans lequel vivent les Na'vi. Cet arbre est planté en quelque sorte sur un gisement d'un métaux précieux que les humains veulent exploiter. L'enjeu, c'est le suivant, c'est que l'arbre maison devrait être détruit afin de pouvoir assurer la survie de l'espèce humaine sur Terre grâce aux minerais qui seraient exploités sur cette planète. Donc, d'un point de vue anthropocentré, il serait justifié de pouvoir détruire l'environnement dans des besoins donc purement utilitaires. Une philosophe, ici, Carlson, qui écrit un livre en 1962 qui a été un petit peu le début des grands mouvements écologistes dans le monde occidental, avec un livre qui s'appelle Silent Spring, dans lequel elle décrit les effets des pesticides sur les animaux. En effet, les pesticides, c'est un moyen qu'on utilise pour pouvoir assurer les récoltes, assurer donc une forme donc d'agriculture qui soit à haute échelle. Sauf que cela produit en fait des conséquences vis-à-vis des animaux qui traversent les champs, et en particulier les oiseaux. Silent Spring, c'est le printemps silencieux, c'est l'idée que, à long terme, si on continue d'utiliser les pesticides sans prendre en considération ces conséquences, eh bien on pourrait imaginer un printemps silencieux où les oiseaux seraient tous morts. Le problème ici, c'est bien de devoir en fait changer de rapport aux pesticides, de changer ce simple nom en fait, et de nommer cette substance-là des biocides, des choses qui tuent en fait le vivant, qui ont des conséquences létales sur les organismes, mais également aussi sur les êtres humains, puisque par effet donc de contamination, on peut aussi nous-mêmes être atteints par nos propres outils qui servent à exploiter la nature.
Passons maintenant à l'écocentrisme et au biocentrisme. En quoi ces perspectives diffèrent-elles de l'anthropocentrisme ?
Alors on va commencer par la perspective dite du biocentrisme. Dans biocentrisme, à la différence d'anthropocentrisme, on voit qu'on déplace le centre d'attention, le centre de préoccupation morale de l'humain vers le vivant. Biocentrisme, c'est le fait que le vivant est au centre de la morale, et en tout cas on doit pouvoir le considérer comme étant un objet qui est digne d'intérêt et de respect. Un premier auteur qu'on peut citer ici, c'est Peter Singer. Peter Singer, en fait, il s'est fait connaître notamment pour être le premier philosophe qui a justifié le fait qu'on devait devenir un peu tous végétariens et qu'on doit s'assurer en fait de limiter le plus possible la souffrance animale. Il place en effet une définition du vivant comme étant des organismes qui cherchent à conserver leur propre existence. Le fait qu'un animal vise certaines fins, qu'il utilise des moyens pour pouvoir justement atteindre ses fins, pour pouvoir rester en vie, pour se reproduire, etc. Ça justifie le fait que les animaux soient des êtres qui soient dignes en fait d'une considération morale. Et donc si les animaux ont une valeur intrinsèque, il ne faut pas donc atteindre leur existence, il ne faut pas atteindre la façon dont ils peuvent survivre. Et donc ici, Peter Singer, c'est le premier à avoir pensé une défense du droit des animaux, et surtout le fait que moralement, l'être humain doit absolument éviter toute souffrance animale. Le biocentrisme ici donc se place parmi ce qu'on appelle les éthiques déontologiques. C'est le fait qu'on doit donc ici répondre à des devoirs. Dans déontologie, il est question ici de ce que l'on doit faire, déontos en grec. Et c'est ici l'idée que le respect de la nature passe avant tout par le respect des êtres vivants qui sont dans l'environnement. Cependant, cette position connaît des objections. Puisque en effet, ça peut sembler une bonne idée de préserver les êtres vivants de toute souffrance. Ça peut sembler une bonne idée donc de se dire que chaque être vivant a un droit à la survie et donc on n'est pas censé atteindre son intégrité en quelque sorte. Sauf qu'en même temps, on observe que les êtres vivants entre eux ne font pas l'objet de grandes considérations. Les lions mangent les gazelles. Enfin bref, il y a des processus qu'on appelle des processus trophiques. C'est le fait que les êtres vivants se mangent entre eux, que la nature n'est pas tendre. Et donc ici, vouloir éviter toute souffrance animale, ce n'est pas une bonne solution non plus, puisque si on évite au loup de manger tous les cerfs de la forêt, eh bien un jour, les cerfs empêcheront à la forêt d'exister. Enfin, on connaît tous ces petits schémas des chaînes alimentaires. Et donc, ça pose un problème de poser vraiment la souffrance comme étant ce qui doit être interdit. D'autre part, protéger la nature, ça suppose aussi de prendre en compte un spectre plus large que la vie individuelle de l'animal. Et ici, donc, on doit prendre en compte une moralité qui serait plus large que les simples intérêts de l'individu. Cette éthique qui est biocentrée, c'est une éthique qui est individualiste. Elle s'intéresse beaucoup trop à des êtres vivants isolés. Elle les prend en fait isolément, alors qu'il y a une interconnexion entre les êtres vivants.
Comment répondre à cette objection ?
Alors pour cela, il y a l'écocentrisme. L'écocentrisme, en effet, pense que les êtres vivants sont interconnectés, notamment avec ce qu'on a nommé tout à l'heure l'environnement. Ici, on va s'appuyer sur un autre auteur qui s'appelle Aldo Leopold, qui a écrit un ouvrage en 1949 qui s'appelle « L'almanach d'un comté des sables », dans lequel il va désigner un nouveau concept, il va proposer de conceptualiser notre rapport à l'environnement avec un mot qu'il appelle la communauté biotique. La communauté biotique, pour Leopold, ça désigne l'ensemble qui est formé par les êtres vivants, les êtres humains, et ce qu'on appelle le non-humain, c'est-à-dire l'environnement, ce qui est inorganique, ce qui est matériel. Contrairement au biocentrisme qui est centré sur les individus, qui est centré sur des animaux isolés, l'écocentrisme, c'est une éthique qu'on appelle holiste. Donc l'éthique individualiste était centrée sur les individus. L'éthique holiste, quant à elle, cherche à prendre les problèmes dans leur ensemble, c'est-à-dire à les intégrer dans toutes les relations complexes qui incluent. Donc ici, la communauté biotique d'Aldo Leopold associe donc certes l'humain et le non-humain, mais donne donc une valeur à l'interdépendance entre tous ces acteurs. Le loup avec la forêt, le loup avec la montagne, les cerfs avec le loup. Tout cela en fait a une forme d'intégrité qui doit être respectée. Et le but, c'est donc que ces processus, ces relations complexes soient dans la mesure du possible conservées, puisqu'elles ont une valeur intrinsèque pour Aldo Leopold. Aldo Leopold donne un critère pour savoir ce que nous devons faire donc dans cette éthique environnementale qui prend en considération les êtres vivants dans les relations complexes qui les unissent à leur environnement. Son critère, c'est le suivant, pour qu'une chose soit juste, le juste c'est, je cite, « une chose est juste lorsqu'elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. Elle est injuste lorsqu'elle tend à l'inverse. » Par exemple, ici, donc, la conservation d'habitats naturels, la protection des espèces menacées sont des priorités, non seulement pour les bénéfices qu'elles apportent peut-être aux êtres humains, mais surtout parce qu'elles sont justifiées en elles-mêmes. Cet environnement, ces êtres vivants ont une dignité et surtout ont un droit qui est donc de pouvoir rester intègre. Et dans le film Avatar, ce que l'on ressent notamment, c'est cette forme d'injustice qui est que les êtres humains qui arrivent dans la communauté des Na'vi détruisent l'arbre maison. On a ici un sentiment profond d'injustice qui est présent puisque on a atteint l'intégrité, la stabilité et la beauté de cette planète et de l'environnement qui le constitue. Un auteur qui peut penser ce sentiment d'injustice, d'ailleurs, c'est Arthur Schopenhauer, qui affirme que la moralité se fonde sur un sentiment qu'on appelle la compassion ou la pitié. Pour Schopenhauer, en fait, toute moralité s'appuie sur un sentiment de compassion, et effectivement, c'est ce que l'on ressent lorsque on apprend effectivement qu'il y a telle ou telle situation de violence animale qui apparaît dans les journaux, lorsqu'on voit tel ou tel environnement qui a été altéré, telle ou telle forêt, montagne qui a été rasée ou qui a pu subir l'altération de l'effet de l'être humain, cela provoque en nous un sentiment de compassion, un sentiment d'injustice qui explique pourquoi cette éthique écocentrée est valide en fait.
Comment notre responsabilité envers l'environnement s'étend-elle aux générations futures et à la justice climatique ?
En effet, l'éthique environnementale suppose également aussi d'intégrer les êtres humains dans cette réflexion. Et ici, on a une forme de responsabilité qui se veut un peu intergénérationnelle, c'est-à-dire qu'on doit inclure aussi les générations futures dans nos activités. C'est-à-dire que philosophiquement, nos actions d'aujourd'hui ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. L'auteur sur lequel on s'appuie ici, c'est Hans Jonas, qui a écrit en fait un ouvrage qui propose un nouveau principe moral qui se veut plus large que celui de Kant, et ce que dessus des moralités qui l'ont précédé, dans lequel il est question d'une justice intergénérationnelle, stipulant que nous devons laisser à nos descendants des conditions de vie qui soient équitables pour leur épanouissement. La justice climatique, c'est effectivement un autre nom de cette conscience que nous devons avoir vis-à-vis des générations futures. La morale d'Hans Jonas, c'est celle-là, c'est qu'on doit pouvoir préserver les conditions de vie des générations futures de sorte qu'ils puissent vivre une vie authentiquement humaine. Et la simple existence de ces générations futures légitime notre besoin de devoir anticiper les conséquences de nos actes sur notre environnement et sur la nature.
Merci beaucoup Edouard pour ces réponses philosophiques.
Cham philo. Parce qu'au lycée, la philosophie ne se trouve pas seulement dans les manuels.
Cham philo. Elle résonne dans chaque question, dans chaque débat de la vie quotidienne.